Vous êtes sur RTL. RTL Matin avec Jérôme Florin.
Un nouveau journal avec vous, Aude Vernuccio. Bonjour Aude.
Bonjour Jérôme, bonjour à tous.
Et à la une, le porte-drapeau des Jeux Olympiques portera-t-il aussi une médaille d'or?
Le gymnaste Samir Aït Saïd est en finale ce lundi au JO de Tokyo. Les chiffres du Covid en région Occitanie particulièrement préoccupants. Les hospitalisations ont été multipliées par 10 en un mois. Et puis la naissance très suivie des bébés pandas de Beauval.
Elle les a pris dans ses bras, elle les tient fermement entre ses pattes, elle les réchauffe. Le papa, il s'en moque et il dort.
Même chez les pandas, les clichés ont la vie dure.
RTL Matin.
Allez, on part tout de suite au Japon.
RTL à Tokyo.
Avec un Français qui a soif de revanche, ni plus ni moins que le porte-drapeau de la délégation française au JO, le gymnaste Samir Aït Saïd. Il doit disputer la finale ce lundi, 5 ans après sa double fracture de la jambe à Rio, Isabelle Langer.
Oui, souvenez-vous, c'était au lendemain de sa terrible chute à Rio, dont personne n'a oublié les images. À peine opéré de sa fracture tibia péronée, Samir Aït Saïd, appuyé sur ses béquilles, donne rendez-vous à Tokyo 5 ans plus tard. C'est le jour J. Les anneaux, c'est son agrès. Il y a décroché 8 titres de champion de France, 1 de champion d'Europe en 2013 et même le bronze aux mondiaux il y a 2 ans. Pour Tokyo, le porte-drapeau des Bleus innove même et présente un mouvement inédit qui portera désormais son nom. Il s'est préparé comme jamais pour ces Jeux, même le dimanche, il s'est entraîné. Il a aussi diversifié les plaisirs, s'est mis au jiu-jitsu brésilien, à la boxe, il a travaillé son cardio. Tout à l'heure, Samir Aït Saïd, 3e des qualifications, aura certainement à cœur le cœur qui va battre très fort au moment de faire sa prestation. Mais il sait aussi qu'en France, sa famille, sa compagne notamment et sa petite Mila, née début avril, sont derrière lui. Cette médaille, il la veut pour elle, mais aussi pour son papa, décédé d'un cancer l'an dernier. Il lui en a fait la promesse.
Isabelle Langer en direct des Jeux de Tokyo pour RTL. Et puis tiens, une médaille d'or au tir s'est confirmée en ce moment, Quentin Vasselin.
Oui, Jean-Ki Campois porte la 22e médaille à la délégation française. Elle est en or. C'est le 6e titre pour la France qui reste 7e au tableau des médailles. Jean-Ki Campois qui domine le Cubain Poupeau en finale de ce tir à 25 mètres. 34 points pour le Français, 29 pour le Cubain. Voilà, j'aimerais pas être dans la ligne de mire de Jean-Ki Campois. Mais bon, ça fait un 6e titre pour l'équipe de France olympique grâce à ce petit Français. Jean Kikampois.
Quentin Vasselin du service des sports.
Et puis tiens, je précise qu'on sera avec Axel Clerget tout à l'heure, sacré champion olympique par équipe mixte samedi à Tokyo. Il sera avec nous en direct. Il vient d'atterrir. Il a atterri cette nuit, on ne sait pas dans quel état il sera, mais il sera avec nous tout à l'heure à 8h15 dans ce studio. 8h03, c'est une pratique qui était tolérée sur le périphérique, mais en réalité interdite depuis le mois de janvier. Aujourd'hui, c'est officiel, Aude, le remonte-fil pour les motards est à nouveau autorisé.
L'expérimentation doit durer 3 ans dans plusieurs départements comme Île-de-France, les Bouches-du-Rhône, l'Hérault, la Gironde ou encore le Var. À Lyon, les deux roues sont soulagées, Frédéric Perruche.
Pour les motards lyonnais, cette relance de l'interfil, comme ils l'appellent, c'est la fin de l'hypocrisie, car la pratique, malgré l'interdiction fin janvier, n'a jamais cessé.
On n'a pas vraiment arrêté en fait. Donc l'avantage, c'est qu'on sera plus verbalisé. 35 balles. Là, le fait qu'ils le réautorisent, ça fait du bien. Ça évite les amendes. C'est l'avantage d'être en deux roues aussi. On a plein de désavantages, donc il faut bien qu'on ait quelques avantages quand même.
La circulation interfile, la CIF, permet un gain de temps pour les motards, limite les bouchons et réduit peut-être la pollution, même si elle nécessite beaucoup d'attention pour éviter les accidents.
Moi, personnellement, quand je fais des dépassements sur mon interfile, je roule relativement doucement, j'essaie de capter le regard du conducteur, bien regarder en fait ce qui nous entoure. Ma moto fait un petit peu de bruit, mais c'est un avantage aussi parce que les gens m'entendent arriver, donc ils se disent « Oula, il y a une moto, warning !»
Et faire péter le moteur et faire bien hurler fort l'échappement pour leur signaler qu'on est là, parce que juste le petit klaxon, des fois, ça sert à rien.
Quant aux automobilistes, ils voient plutôt d'un mauvais œil le retour de l'expérimentation pour 3 ans.
Le fait de faufiler comme ça entre les voitures, ça peut être surprenant en fait pour le conducteur. On les voit pas en fait. C'est vrai que de temps à autre, on regarde sur les rétros, mais surtout quand ils arrivent en grande allure, je trouve que c'est dangereux.
Mais les vitesses seront limitées, 50 km/h au maximum et pas plus de 30 quand la circulation est arrêtée.
Le reportage de Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. Les derniers indicateurs de l'épidémie de Covid-19, 19 600 nouveaux cas ces dernières 24 heures. À cause du variant Delta, la pression sur l'hôpital continue de s'accentuer. 1137 malades en réanimation. En région Occitanie, le nombre d'hospitalisations a été multiplié par 10 en un mois seulement. Et le SAMU de Haute-Garonne est en première ligne. Reportage de Benjamin Pelsi pour RTL.
SAMU 31, bonjour.
Il y a un mois encore, ce centre d'appel ne recevait plus d'urgence. Covid, aujourd'hui, c'est un patient sur 4.
D'accord. Vous avez froid, vous avez mal quelque part?
En l'espace de 15 jours, on a vu les chiffres exploser à tous les niveaux.
Le docteur François Consina est urgentiste au SAMU 31 et à l'hôpital Purpan.
Que ce soit au téléphone, à la régulation, que ce soit le nombre d'ambulances qu'on envoie chez les gens qui ont le Covid, le nombre d'entrées aux urgences, le nombre de patients qu'on doit hospitaliser, c'est beaucoup des trentenaires, c'est beaucoup des gens qui ne sont pas vaccinés d'une manière générale. C'est encore quelques personnes âgées non vaccinées, c'est des gens qui, jusqu'à présent, visiblement, se sentaient pas concernés par la problématique.
Et certains malades refusent d'admettre qu'ils sont atteints du Covid.
Ils nous répondent non, ou ils nous répondent c'est pas vrai, je suis pas malade. J'en ai 3 qui ont quitté le service alors que j'étais pas d'accord.
139 personnes sont hospitalisées en réanimation dans la région, un chiffre qui pourrait monter à 250 d'ici une semaine, selon l'Institut Pasteur, et la vague arrive au pire moment.
On est en période où la moitié de l'effectif a pas encore pris les congés, tout le monde s'inquiète de savoir s'ils vont pouvoir partir en vacances. C'est vrai qu'on se dit, on ne sait pas comment on va passer le mois d'août, quoi.
Pour empêcher la saturation des hôpitaux, le directeur général de l'Agence régionale de santé, Pierre Ricardo, en appelle à la population.
Nous n'arriverons pas à empêcher l'épidémie, mais nous pouvons la ralentir. Respecter les gestes barrières, ça a un impact, c'est efficace. La deuxième chose qui fonctionne et qui est la seule arme fatale contre le Covid, c'est la vaccination. Il faut être extrêmement vigilant dans les jours qui viennent en région Occitanie.
Des créneaux de vaccination sans rendez-vous sont disponibles toute la semaine dans la région.
Benjamin Pelsi en Occitanie pour RTL. En Martinique, le reconfinement de 3 semaines et le couvre-feu ont provoqué la colère de certains habitants. Une manifestation a dégénéré samedi soir. Un vaccinodrome incendié, un hypermarché pillé et des voitures brûlées.
Allez, on est aujourd'hui le lundi 2 août. Vous cherchez peut-être le soleil et la chaleur, mais l'été, hein, on le voyait avec Louis, semble presque ne pas avoir commencé.
Des nuages et beaucoup de pluie ces dernières semaines qui donnent du fil à retordre aux vignerons. À cause de la météo, le mildiou, un champignon, a fait son apparition dans les vignobles. Plusieurs régions sont touchées, en particulier le Beaujolais. Bertrand Frachon, vous avez rencontré un viticulteur de Beaujeu dans le Rhône.
À peine 20 degrés au thermomètre et un ciel très nuageux, annonciateur de pluie. Un scénario récurrent dans le Beaujolais et qui désespère Jérôme Lacondemine. Ce viticulteur est victime du mildiou, un champignon qui attaque ses vignes avec ses fortes pluies.
C'est un impact destructeur puisqu'il s'attaque d'abord aux feuilles et puis aux grappes. Donc il détruit les feuilles, détruit les grappes. Alors ça n'a pas un impact qualitatif parce que ce qu'il va détruire, ça va tomber. Ce qui reste peut produire des beaux raisins et de qualité. C'est pas comme l'oïdium qui lui va apporter un goût de champignon au cuvée.
Alors tous les matins, Jérôme scrute le ciel, prêt à intervenir, car il existe bien un traitement, même s'il est très ponctuel.
Oui, on traite, bien sûr. Il n'y a pas d'alternative que le traitement, malheureusement. Alors, il y a des différentes façons de traiter. En bio, on va utiliser des produits de contact, qui sont des produits naturels, le cuivre, notamment. On est limité en dose de cuivre par an, mais c'est le seul, pratiquement, produit utilisable contre le mildiou. Mais ce sont des produits de contact. Donc, ça veut dire que dès qu'il pleut, plus de 20 mm, le produit est lessivé et il faut recommencer.
Sur son domaine d'un peu plus de 5 hectares, le viticulteur estime qu'il va perdre, selon ses parcelles, entre 15 et 50% de sa récolte. Après le gel et la grêle, il se serait bien passé du mildiou.
Bertrand Frachon dans le Rhône pour RTL.
8h08 sur RTL, l'actualité à l'étranger à présent. Retour en Tunisie, 7 jours après le coup de force du président Saïed.
Un pays paralysé depuis des mois par une crise politique et la pandémie qui aggrave la situation. Le président a invoqué la constitution pour avoir les pleins pouvoirs et suspendre le Parlement. Chaque jour, les Tunisiens sont suspendus à ces prises de parole dans un contexte de déficit de confiance envers la classe politique. Reportage de Mathias Reynal sur place.
Une petite dame s'avance et demande si le président est toujours là.
Je veux lui parler de la situation sociale.
Latifa, 43 ans, a raté de peu Kais Saied, qui vient de prendre son deuxième bain de foule en 7 jours. Le chef de l'État est toujours aussi populaire et Latifa compte parmi ses soutiens.
Le pays est à la dérive. On est content que le président rétablisse la souveraineté de l'État. Ça va s'améliorer, même si des gens ne peuvent plus attendre. Moi, je suis venue en courant pour le voir. Je n'ai plus d'électricité chez moi.
La mère de 5 enfants sort de son sac des factures au montant exorbitant.
On me demande de payer 600 euros. Où est-ce que je vais trouver cette somme?
Comme beaucoup de Tunisiens, elle est prise à la gorge par la crise économique qui sévit depuis 10 ans. Pour Mohamed, 37 ans, la reprise en main de l'État par le président est un soulagement.
Il n'y a pas d'inquiétude pour la démocratie. La démocratie, c'est la solidarité, la dignité, la liberté.
Kais Saied est sous pression, désormais condamné à des résultats rapides pour éviter que l'espoir qu'il suscite aujourd'hui ne nourrisse les frustrations de demain.
Mathias Reynal en Tunisie pour RTL. C'est presque une naissance royale. Wan Wan, la maman panda du zoo de Beauval, a enfin accouché. Elle a mis au monde cette nuit deux jumelles pandas de 128 et 149 grammes. Imaginez, c'est le poids moyen d'un artichaut. Delphine Delors, la directrice du zoo de Beauval, a crié de joie lorsqu'elle a vu les bébés.
C'est un événement exceptionnel. Au bout d'une longue nuit d'attente, quand même, ça y est. C'est un puis deux bébés pandas qui sont nés très très rapidement l'un après l'autre. Ils sont roses, vivants. Ils crient. Certainement deux petites femelles. Vous ne pouvez pas rêver mieux, surtout qu'ils soient tous les deux vifs et en bonne santé, puisque il y a 4 ans, nous en avions un qui était quasiment mort-né. Et là, vraiment, on sent qu'ils vont tous les deux très bien.
On a vu très vite que la maman panda s'occuper des petits.
Ah oui, c'est incroyable. Elle les a pris dans ses bras, elle les tient fermement entre ses pattes, elle les réchauffe. Cette façon qu'elle a de les envelopper, on sent que c'est une bonne mère.
Et dites-moi, mais le papa, il est où ?
Le papa, il s'en moque et il dort.
Delphine Delors, la directrice du zoo de Beauval au micro RTL, de Christian Porvert.
Bon, on va être honnête, hein, quand on les voit, les deux petits trucs roses, on n'a pas l'impression, on ne dirait pas des pandas.
Non, on ne dirait pas des pandas.
Voilà, c'est vraiment tout petit, petit, petit. Les sports, au des cette belle victoire du français Esteban Ocon en Formule 1 qui remporte le premier Grand Prix de sa carrière.
À 24 ans, il s'est emparé du Grand Prix de Hongrie après une course rocambolesque. Il rejoint le club très sélect des 14 Français vainqueurs en Formule 1. Écoutez, sa toute première réaction, c'était au micro de Frédéric Veil.
Je suis plus qu'heureux, je suis comblé. C'est incroyable, tout simplement. C'est un résultat forcément qui restera gravé dans ma mémoire pour toute ma vie. C'est un énorme moment pour moi, mais c'est aussi un énorme moment pour le groupe Renault. Ça fait 8 ans voilà, qu'ils sont retournés en Formule 1. C'est la première victoire. Ça montre à quel point on a travaillé, à quel point on a progressé sur beaucoup d'aspects. Et je suis voilà, très heureux de pouvoir goûter à ça, forcément.
Qu'est-ce que vous avez ressenti quand vous avez franchi le drapeau à damier ?
C'est difficile à décrire, mais beaucoup d'émotions, forcément. Je repense à tous les sacrifices que toute ma famille a fait pendant toute ma vie, toute ma carrière, mais aussi aux courses difficiles qu'on a eues cette saison. Et on a travaillé soudés pour résoudre ce problème. Et la confiance voilà, qu'il y a dans cette équipe, c'est juste quelque chose d'énorme. Incroyable. J'ai pas de mots, j'ai plus de mots.
Esteban Ocon au micro de Frédéric Veil pour RTL. Et puis cette polémique qui enfle dans les bureaux de la Fédération de Beach Handball. L'équipe féminine française ne veut plus être obligée de jouer en bikini. Les joueuses ont écrit un courrier à la Fédération après cette amende infligée à leurs consoeurs norvégiennes. Elles avaient porté un short plutôt qu'une culotte de maillot de bain.
Bah oui, les JO, c'est ça, c'est les grandes et les petites histoires. Merci beaucoup Aude Vernuccio. Justement, les Jeux Olympiques, Quentin Vasselin arrive en catastrophe dans ce studio. Que se passe-t-il ?
Quelle matinée, quelle fin de matinée.
Rebondissement.
L'équipe de France qui était mal en point dans le tournoi de basket féminin vient de perdre contre les États-Unis 93-82. Mais cette défaite suffit pour qualifier les Françaises pour la suite de la compétition. Elles bénéficient du statut de meilleure troisième voilà, de ce groupe B. Et donc elles attendent maintenant de connaître leur adversaire en quart de finale. C'est une bonne nouvelle qui vient s'ajouter à celle des handballeuses qui, un peu plus tôt dans la matinée, avaient gagné 29-22 contre le Brésil et qui avaient elles aussi rallié les quarts de finale.
Voilà, c'est ça, les Jeux Olympiques, du suspense, des rebondissements. Merci Quentin. 8h13 sur RT.